On a fait grand bruit des répercussions de l'accord États-Unis-Mexique-Canada sur le secteur laitier, et avec raison, car ce domaine de l'agroalimentaire canadien est le plus touché. Surtout si on cumule les effets des trois derniers accords commerciaux, qui sont celui avec l'Europe, celui avec la zone Asie-Pacifique et le récent renouvellement de ce que l'on appelait auparavant l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Donc, le secteur de la volaille, le secteur avicole, même si on y retrouve également le système de gestion de l'offre, il est moins affecté. Mais, à l'évidence, les Américains ont bien placé leur pion pour l'avenir. J'en ai discuté avec l'économiste en chef de Financement agricole Canada, Jean-Philippe Gervais.
Il y a un impact, c'est définitif. Ce qui est intriguant dans le secteur de la volaille, c'est qu'on a changé les règles un peu pour ce qui constitue l'accès au marché. Donc, auparavant, par exemple, dans le secteur du poulet, on avait un accès au marché qui était fonction de la production précédente. Donc, comme la production, nous autres, continuait de croître, bien, on avait un accès au marché qui augmentait, que les Américains pouvaient exporter plus. Mais ceux-ci, bien sûr, étaient sujets au fait que si jamais notre production vient qu'à avoir une certaine stagnation ou peut-être même diminuer, qui sait, quoique je le crois pas, là, mais tout d'un coup, mais les Américains peut-être sentaient que cet accès au marché-là était peut-être un peu trop fragile. Donc, ils ont converti leur accès au marché en fonction, non pas d'un pourcentage de notre production, mais un volume spécifique. À la fin des 6 ans, parce qu'on a une période d'implantation, cet accord-là va être implanté par tranche et par tranche sur 6 ans. À la fin du 6 ans, on ne sait pas si on va avoir plus de poulets américains sur le marché canadien ou peut-être un peu moins. On devrait probablement avoir autant de poulets américains sur le marché qu'on aurait eu sous l'ancien système. Donc, pas beaucoup plus. Par contre, après les 6 ans, on a une croissance de 1 % par année qu'on admet, de 1 % du contingent, pas 1 % de la production, mais 1 % du contingent. Donc, les Américains ont converti leur pourcentage qu'ils avaient en volume, en tonnes métriques, donc plus de certitude pour eux autres qu'ils vont avoir un accès au marché canadien, et on se sont aussi bâti une certaine croissance là, de ce contingent-là. Donc, il va y avoir des impacts, c'est évident, parce que tout ce qu'on laisse entrer sur le marché canadien, mais c'est sûr que la perspective des producteurs et des transformateurs, on aimerait le produire ici, on aimerait le transformer ici. Mais les impacts vont quand même être limités pour le secteur du poulet, entre autres.
Dindon, c'est un peu le même contexte?
En fait, le même contexte, mais à l'inverse. C'est-à-dire qu'on avait un volume en tonnes. Maintenant, on arrive avec un pourcentage et on arrive en établissant dans le dindon un plancher d'accès au marché pour les États-Unis et un plafond d'accès au marché pour les États-Unis. Donc, je pense qu'on arrive quelque chose comme 0,3% d'accès supplémentaire, là, 0,3% de notre production. Donc, encore quelque chose que, oui, il y a une certaine concession qui a été faite, mais quelque chose peut-être qui va être un peu plus... qui vont pouvoir s'ajuster dans l'industrie et essayer de minimiser les impacts pour l'industrie canadienne ou québécoise.
Les œufs, même chose?
Les œufs, on arrive avec un volume additionnel. Donc, on parle de millions de douzaines. On arrive avec 10 millions de douzaines additionnelles qui provenant des États-Unis. Donc, ça peut paraître assez significatif. Ça l'est assez significatif. Si on considère qu'il y a beaucoup d'œufs déjà qui entrent, œufs de consommation, oui, aussi œufs d'incubation qui entrent beaucoup des États-Unis, soit sous forme de permis spécial, soit sous forme de programme d'importation et exportation. Donc, grosso modo, ça va augmenter le volume d'œufs américains sur le marché canadien. Mais encore une fois, un volume, quelque chose qu'on va être capable de s'ajuster et puis de prendre en considération pour les entreprises.
Donc, il y a un impact réel et à l'apparence qui semble à l'avantage des États-Unis.
Bien, c'est sûr que les États-Unis, pour eux autres, je pense qu'ils ont... leur philosophie dans le secteur avicole a été de convertir un accès qui était plus ou moins clair ou précis à un accès un peu plus précis. Donc, effectivement, pour les Américains, je pense qu'il y a un certain avantage. Le secteur canadien a réussi à ne pas émettre trop de croissance en termes de produits américains qui viennent sur le secteur canadien. Donc, ça, pour moi, ici, il y a un certain gain, c'est évident, du côté canadien aussi.
Est-ce que ça vient affecter l'état de santé du secteur avicole au Québec et au Canada?
Bien, bonne question. Je pense qu'on a eu une croissance intéressante dans les dernières années. Cette croissance-là, dans le secteur du poulet, par exemple, bien, est fonction du consommateur ou de la perception des consommateurs, préférence des consommateurs fortes pour la viande de poulet, versus aussi des réformes à la frontière qui ont été faites pour prévenir l'importation de viande de réforme et donc ainsi augmenter la production de poulet. Voir maintenant quel est le pourcentage de chacun de ces facteurs-là dans la croissance future, on va le voir bientôt. 2018, 2019, là, on devrait commencer à voir maintenant la vraie contribution de la consommation à la croissance dans le secteur du poulet. Pour moi, la croissance va être encore au rendez-vous. Je pense qu'on a une protéine qui est très compétitive. Il faut se méfier de la protéine végétale. Ça, c'est la grosse question pour moi, parce qu'il y a une substitution qui est en train de s'opérer entre protéines animales et protéines végétales, une substitution importante. Donc, c'est pas nouveau, mais c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, qui est un peu plus fort qu'il était auparavant.
Mais est-ce que le fait que les viandes blanches, comme celle de la volaille, bien sûr, continuent à gagner un petit peu de terrain sur les viandes rouges, ça ne viendrait pas compenser? Ou est-ce que la tentation des protéines tout à fait végétales est plus forte pour justement annihiler cette compensation-là?
Effectivement, il y a plusieurs effets de substitution. Il y a un effet de substitution entre protéines viande rouge, protéines végétales, qui est plus fort probablement que la protéine de poulet versus protéines végétales, effectivement. Et aussi encore la substitution entre viande rouge et viande blanche, définitivement. Mais pour la viande de poulet, je pense que c'est un phénomène qui va continuer de croître. Cette substitution-là entre protéines végétales et protéines animales, elle va probablement affecter plus la viande rouge, définitivement, mais elle va affecter aussi la viande de poulet, la viande blanche. Donc, c'est quelque chose pour l'industrie à continuer à surveiller. Et comme, moi, je crois qu'on n'a pas encore les bons outils pour mesurer ceci. On est capable de mesurer la croissance de la production en protéines végétales à la ferme, mais on n'est pas capable de mesurer très, très bien la croissance de la consommation de protéines végétales au détail. Et ça, je pense que c'est sur quelque chose qu'il va falloir se concentrer dans les prochaines années.
En terminant, M. Gervais, vous avez fait une comparaison rapide avec le secteur porcin. J'en conclus, et dites-moi si je suis correct, j'en conclus que les perspectives sont quand même intéressantes et bonnes globalement pour le secteur de la volaille, mais que c'est plus sombre pour le secteur du porc.
Bien, la grosse question pour le secteur porcin est effectivement l'aspect sombre, le nuage au-dessus de la filière porcine, et je pense la croissance de la production qu'on attend aux États-Unis en 2019. On parle d'une croissance de 5 % peut-être, même peut-être un petit peu plus, donc ça fait une croissance énorme de production en 2019. Si on pense que l'augmentation de la population américaine est 1 % consommation par habitant est relativement stable, ça veut dire qu'il faut trouver des marchés d'exportation additionnels. Et de ce côté-là, les marchés d'exportation étaient très, très, très forts, 2017, 2018, 2016. Mais est-ce qu'on est en droit de s'attendre à ce que ces marchés-là vont encore rester forts pour 2019? On entrevoit un certain ralentissement en 2019 de l'économie mondiale, 2020. Donc, pour moi, là, c'est la grosse question. Est-ce que les marchés d'exportation vont être encore aussi forts pour supporter la filière porcine? Et si ce n'est pas le cas, bien, effectivement, on pourra avoir un peu plus de difficultés, des marges un peu plus faibles en production porcine. On a déjà beaucoup de volatilité avec ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis. Si on ajoute à la volatilité des perspectives un peu plus modérées pour ce qui est de la demande sur les marchés d'exportation, mais ça va être peut-être quelque chose d'un peu plus difficile à gérer pour les producteurs porcins, effectivement.
Il faut nuancer les choses en disant que le secteur de la volaille, bien sûr, secteur avicole globalement, est sous gestion de l'offre, alors que le porc ne l'est pas.
Oh, définitivement. Ça fait une grosse différence parce que lorsqu'on parle de croissance des revenus dans le secteur avicole, bien, on regarde la croissance de la consommation et on peut pratiquement oublié dans un certain sens l'aspect prix versus coût de production parce que ce prix-là est ajusté en fonction du coût de production alors que ce n'est pas le cas, bien entendu, pour le secteur porcin. Donc, le secteur porcin fait face à une volatilité non seulement au terme de prix du porc, mais aussi en termes de coût d'alimentation. Et c'est la difficulté de gérer le risque en production porcine est liée à ces deux aspects-là, les deux côtés de l'équation, c'est-à-dire équation coût, équation revenu. Donc, pour les producteurs de porc, l'environnement est de plus en plus complexe et ça va falloir continuer à le surveiller là, à la fin 2018, début 2019.
Monsieur Gervais, merci beaucoup.
Toujours un plaisir, merci.
Le rendez-vous avicole 2018 de la CINAQ a réuni quelques 650 personnes à Drummondville. Beaucoup de questions techniques y ont été abordées. On a, entre autres, traité de biosécurité dans les élevages. Un mal nécessaire, affirmait le docteur François Cardinal des services vétérinaires ambulatoires Triple V.
Je vais passer 40 % de mon temps à parler de biosécurité et à travailler avec la biosécurité avec mes clients. Honnêtement, c'est pas parce que j'aime ça. J'aime pas ça. OK? Mais c'est un mal nécessaire. On n'a vraiment, vraiment pas le choix. Mais, comme je vous dis, appliquez pas ça à l'aveugle. Faites faire de la recherche. Financez de la recherche là-dessus. C'est super important pour convaincre vos gens que c'est efficace puis que vous investissez votre argent et vos efforts au bon endroit.
Ici Lionel Levac. On a aussi discuté de marché, d'évolution des marchés, de tendances, d'orientation que prennent les consommateurs. Et j'aborderai spécifiquement ces sujets dans un prochain blog. Entre autres, il y sera question de la montée des protéines végétales face aux viandes. Au revoir.